Salut à tous et bienvenue dans Tech Café, bienvenue dans l'épisode 40, je suis Guillaume Vendée et Tech Café c'est votre rendez-vous en podcast diffusé par le web, une émission qui vous parle de tech et de tous ses usages. Nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes le 22 novembre 2016. Salut à tous et bienvenue dans Tech Café. Pour cet épisode 40, je me suis entouré de deux des plus anciens et des plus fidèles de Tech Café depuis le début, à savoir Pierre-Olivier Dillman. Salut Pierre-Olivier, comment vas-tu ?
Salut tout le monde, ça va ?
Ça va bien, tu nous rejoins d'une salle qui a un peu d'écho, mais on avait besoin de toi pour cet épisode, donc merci de répondre présent. Il est quoi, il est 15h chez toi de ton côté?
Exactement, bon, ok, 15h15 là, faut avouer qu'on est en retard quand même.
Bon, oui, le petit quart d'heure charentais comme on dit. Et donc tu seras susceptible de nous quitter en cours d'émission et on ne t'en voudra pas. Et nous avons également pour cette émission Cédric Tamboise. Salut Cédric, comment vas-tu?
Salut, je vais très bien et c'est moi le coupable du retard, donc voilà, je plaide coupable.
Allez, on va être transparent. Pendant que tu étais en retard, on se démerdait comme on pouvait pour faire fonctionner Zencastr avec voilà, nouvelle plateforme là depuis qu'ils sont plus en bêta, c'est pas toujours facile et on croise les doigts pour que l'enregistrement tienne jusqu'au bout car ça n'a pas été le cas pour d'autres podcasts. Un petit mot pour les nouveaux tipeurs qui nous ont rejoints ou qui ont renouvelé leur tip auprès de nous, et d'ailleurs un petit mot pour dire qu'il y en a un qui nous a contacté en nous disant: "Je suis désolé, je dois prioriser un peu mes dépenses et j'ai décidé de suspendre mes parties sur Tipeee pour Tech Café." Et bien sûr, on vous en veut pas du tout. Vous faites comme vous pouvez, comme vous le voulez. Vous suspendez si vous le souhaitez, puis vous revenez quand vous pensez que vous en avez la possibilité. Faut surtout pas que ce soit compliqué pour vous, même si les sommes sont plutôt accessibles. Faites les arbitrages qui vous vont bien. Et puis, merci donc de nous retrouver peut-être parfois par Tipeee, comme par exemple Johan 13220, Prof du Web, Maxime Cespin, Guillaume Père ou Marie-Chantal Ponce. Merci à vous de nous avoir rejoints. Un petit mot aussi sur les avis iTunes. Alors là, je suis en mal de commentaires iTunes, j'en ai pas de nouveau depuis le dernier épisode, donc je compte sur vous. Allez déposer un petit commentaire, ça nous fait toujours du bien d'avoir vos retours sur ce catalogue d'émissions. Et puis un petit commentaire aussi que je voulais apporter sur les remarques qu'on a eues sur le dernier épisode, puisqu'on a mentionné un petit peu des petites mises à jour sur Samsung suite à leur affaire du Samsung Galaxy S7 explosif et S7 Edge pardon explosif. Et c'est assez rigolo parce que depuis quelques temps, à chaque fois que je parle de Samsung, je me fais incendier. Y en a marre, vous faites du Samsung bashing, vous les critiquez, vous arrêtez pas de dire tout le temps qu'ils copient, etc. Alors je veux pas m'étendre plus que ça dans cette émission. J'ai déposé un commentaire et ce sera mon dernier sur le sujet dans les commentaires de l'épisode 39, donc allez jeter un coup d'œil si vous voulez connaître ma position, et je ne réagirai plus à ce genre de remarques. Je pense qu'on a d'autres choses à discuter maintenant. On passe tout de suite aux news. À commencer pour les premières news, on va parler de Facebook. Je voulais relayer un petit peu cette situation dans laquelle se trouve Facebook. On avait déjà abordé plusieurs des prémices de la situation dans laquelle on se trouve, mais je pense que c'est plutôt intéressant de le remettre en lumière parce que ce sujet a été lui-même remis en lumière suite à l'élection de Monsieur Donald Trump comme président des États-Unis. Il y a eu pas mal de critiques qui ont commencé au départ sur des remarques de la part du président Obama. Président actuel des États-Unis bien sûr, qui a critiqué un peu le fait que de multiples news infondées et non vérifiées, des fake news comme ils disent en anglais, pullulaient sur le news feed de Facebook. Et ça a été un petit peu le point névralgique, le point de départ de tout un petit débat qui a eu quelques évolutions. Il y a eu plusieurs en fait situations où des articles étaient relayés comme étant des news et qui relayaient des infos complètement pas vérifiées, comme par exemple Hillary Clinton qui avait acheté pour 137 millions de dollars d'armes illégales, ou que les Clinton avaient acheté une maison de 200 millions dans les Maldives. Et évidemment, toutes ces news là qui sont listées la plupart du temps dans les articles sont des news qui, bon, comme par hasard dans les exemples, ont tendance à critiquer plus tôt, le camp des démocrates est plutôt, du coup, à indirectement favoriser la visibilité de Donald Trump. Et bien entendu, les sous-entendus étaient assez évidents de dire que ces fake news avaient contribué à l'élection de Donald Trump, et évidemment, Obama s'en est offusqué. Je vais dérouler un petit peu les événements que j'avais notés, et puis je vous laisserai bien évidemment réagir tous les deux. Mark Zuckerberg a réagi derrière, il était hors de question qu'il laisse cette situation se développer de cette manière. Il a trouvé complètement folle, il a vraiment parlé de crazy idea, que les fake news sur Facebook aient pu influencer l'élection de Donald Trump. Il dit grosso modo que c'était très marginal, le volume de news infondées, et en plus qu'il y en avait du côté des deux camps. Donc grosso modo, si elles avaient eu une quelconque influence, elles en auraient eu sur les deux camps, et donc au final, ça aurait pas plus que ça influencer les décisions. C'est en tout cas la position qu'il adoptait. Et puis on a eu aussi une investigation de BuzzFeed plutôt cette année, qui avait montré que en gros, les fake news qui apparaissaient sur les sites, et en particulier sur Facebook, étaient plutôt quand même à tendance à critiquer. Alors je vais reprendre les chiffres exacts, qui critiquaient à 20% seulement les positions des démocrates. Il est évidemment assez critique, en plus de se baser sur la fiabilité journalistique de Facebook. On avait eu, on va pas en reparler en détail, mais des blocages quant à des photos, que ce soit des photos artistiques avec l'origine du monde, ou que ce soit des photos journalistiques et historiques, comme celle, la photo célèbre de la fille au napalm. Donc on sait qu'évidemment, il y a ce sujet qu'on avait d'ailleurs déjà abordé dans Tech Café, qui fait débat et qui soulève quand même pas mal d'interrogations. Et là-dessus, il y a Sundar Pichai, qui est le CEO de Google, qui a clairement réaffirmé le fait que pour lui, c'était un problème, et que ces news-là, si tant est qu'on puisse les qualifier de news d'ailleurs, devraient pas être affichées, point barre. Et il a d'ailleurs rappelé, lui, que contrairement à ce qu'affirmait Mark Zuckerberg, que ces petites différences pouvaient très probablement avoir influencé les électeurs. On va pas faire un débat d'experts, là, peut-être à part Pierre-Olivier, je suis pas sûr qu'on soit tous bien experts sur les fonctionnements qui sont assez complexes de l'élection américaine, mais il avance, lui, que ces petites différences aient pu faire la différence dans les décisions de certains votes dans certains endroits, et du coup influencer les grands électeurs pour un camp et pour l'autre. Il y a un concept qui a été mis en avant sur les sites web, notamment je l'ai vu relayé sur The Verge, de la filter bubble, qui est en gros qui s'appuie sur un ouvrage qu'un expert a écrit, qui met en lumière le fait que le fonctionnement même de Facebook et d'ailleurs Google isole un petit peu la confrontation de points de vue, et on peut mettre ça en lumière assez rapidement du fonctionnement de Facebook. Quand on suit quelque chose sur Facebook, c'est parce qu'on le like par défaut, et bien évidemment les news qui nous remontent sont vraisemblablement influencées de par notre profil. Et on peut là aussi douter quand même de l'objectivité de ce type d'infos. Et en plus, on est évidemment moins exposé aux news qui soutiennent une thèse adverse ou une position adverse. Au final, Google est intervenu par rapport notamment à sa régie publicitaire, et en tout cas AdSense vis-à-vis de ces sites-là, et Facebook les a suivis au final pour interdire les sites de fausses news sur son réseau de publicité. Encore faut-il qu'il puisse y arriver, et là on en avait déjà débattu. Pierre-Olivier, tu as suivi d'une part tout mon déroulé, j'imagine que tu as suivi ces infos, on en avait déjà parlé. Est-ce que de ton côté tu trouves qu'on en est arrivé à un point où effectivement il fallait intervenir, où il fallait vraiment concrètement retrousser les manches et intervenir par rapport à tout ça, ou est-ce que tu penses que c'est un faux débat qu'on adresse à Facebook et peut-être de manière générale aux grands acteurs du web?
En fait, c'est pas que c'est un faux débat, c'est que je pense qu'on le prend d'un angle technique et d'un angle traitement des médias, là où en fait on est vraiment sur un problème social profond qui est pas nouveau, qu'on a déjà eu À l'époque de la guerre froide, nos grands-parents, pour ceux qui les ont encore, peuvent en témoigner, où on avait une vraie déformation de la réalité, tant dans un camp que dans l'autre, avec beaucoup de fausses informations ou d'informations vraies, mais montées tellement en épingle que leur teneur était complètement déformée. On est à nouveau dans ce genre de diaphragme. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une petite digression, là, on a parlé beaucoup de l'élection présidentielle américaine, mais le même genre de déformation de la réalité a lieu aujourd'hui sur toutes les nouvelles qui gravitent de près ou de loin autour de la Russie, de la Turquie et d'un certain nombre de pays où il y a beaucoup de fausses informations ou parfois de vraies informations qui sont montées en épingle pour aller donner un autre son de cloche, etc. C'est clair que effectivement les fausses informations sont plutôt majoritairement issus du camp conservateur. Ça veut pas dire que c'est les seuls qui déforment la réalité. Côté démocrate, on a tendance à prendre parfois sur certains sites des éléments qui sont extrêmement simples, banals, ordinaires, et les monter en scandale, etc. Bon, il y a la manipulation un petit peu des deux côtés. C'est normal. Ça fait partie, malheureusement, de la vie politique et sociale. Et la différence entre le point de vue de Zuckerberg et le point de vue de Pichai, et on l'a pas le point de vue de, enfin si, et le point de vue de Pichai, il s'exprime de façon logique. Zuckerberg, il pilote pas un moteur de recherche, il pilote un réseau social. Et sur le réseau social sont forcément reflétées toutes les qualités et tous les travers de notre vie sociale à nous. Et donc on traîne avec des gens qui nous ressemblent, c'est ça notre vie, même si parfois on a des amis d'enfance avec qui on n'a plus grand chose en commun, qui ont suffisamment de recul pour nous dire attends, t'es complètement con, tu penses de travers, et ça fait du bien de l'entendre, même si c'est pas forcément vrai, machin, etc. Mais notre réseau social, il est quand même majoritairement constitué de gens qui nous ressemblent, et Facebook reproduit ça dans le domaine du virtuel. On n'est pas sur un moteur de recherche où on trie les sites et les sources d'informations par pertinence. Donc forcément, les enjeux sont pas les mêmes. Et évidemment, le concept de bulle déformante, il est très présent et poussé à son paroxysme. Maintenant, il l'est parce que ça rapporte de l'argent à Facebook, parce que c'est ça qui fait que les gens restent. Parce que si on s'engueulait toute notre journée sur Facebook, c'est clair qu'à un moment donné, on arrêterait de s'y connecter parce que c'est lourd. Et donc, la problématique, on est en train de l'adresser, de placer un petit peu de la responsabilité sur Facebook, comme si Facebook était une institution de la vie politique, une institution neutre, une institution de notre vie sociale. Ça n'est pas le cas. C'est un réseau social, et c'est un réseau social privé qui gagne de l'argent. Les efforts, ils sont à faire de notre côté, pour éviter d'avoir une monosource d'information. Et je sais de quoi je parle. Je reviens de 10 jours de voyage en vélo à Cuba, où j'ai pu regarder de temps en temps la télé et voir qu'est-ce que ça donne une seule source d'information. Et c'est à nous de faire ces efforts-là, c'est à nous d'aller chercher les informations à droite, à gauche, c'est à nous de nous confronter aussi aux gens qui ne nous ressemblent pas, pour en tirer des enseignements, pour se confronter. Et cette démarche-là, Facebook ne peut pas la faire à notre place, et il ne la fera pas parce que ce n'est pas rentable pour eux.
Cédric, est-ce que tu es aussi de cette position de dire que on peut pas en vouloir à Facebook de pas avoir allez, je caricature, hein, une éthique journalistique, parce que c'est avant tout un réseau social. Pour autant, ils nous diffusent quand même plein de news, et de fait, on est amené à suivre des sites de news, donc on cherche aussi de la news. Et est-ce que finalement, il y a d'ailleurs des thèses qui disent que Facebook devrait, au même titre qu'ils ont proposé une application Messenger indépendante de l'application Facebook de base. Est-ce que Facebook devrait pas diffuser de la news sur une app différente? Je crois que d'ailleurs, ils ont fait des tentatives dans ce domaine-là. Quelle est ta position, Cédric, là-dessus?
Le problème, c'est qu'on est effectivement des gros fainéants, de la même manière que quand on regarde les news juste en lisant un fil Twitter, c'est-à-dire 140 caractères, le lien exclu, pour savoir ce qui se dit dans un article et sans aller jusqu'au fond. En fait, on fait pas l'effort, c'est un peu ce que disait Pierre-Olivier, pour essayer de comprendre ce qui se passe au fond de l'information et se forger une vraie opinion. De la même manière que si on lit que des articles de Wikipédia, il y en a des très bons, il y en a des moins bons, et à un moment, si on fait pas l'effort d'aller confronter l'information pour se faire une vraie opinion, enfin, il y a un vrai souci là-dessus. Et effectivement, Facebook fait effet de chambre d'écho à ce qui se dit déjà dans un entourage proche. Dans une moindre mesure, si vous lisez l'UMA, vous aurez très peu d'articles élogieux pour parler de François Fillon ou de Nicolas Sarkozy. Donc, enfin, à partir du moment où on a un choix d'entourage social, alors même si l'UMA est un journal avec une petite, enfin, un côté un peu avec des bonnes pratiques journalistiques, en tout cas ce que ne revendique pas Facebook. Mais à partir du moment où on a un entourage qui parle de certains sujets et pas d'autres, qui a des positions et pas des positions opposées, forcément, enfin, les news sont filtrées, mais de la même manière que quand on est dans une famille de communistes, une famille de royalistes, enfin voilà, il y a en général des sujets. Ça n'empêche pas de se faire une opinion diverse, mais ça demande un effort qui doit aller plus loin. Là où ça devient un problème, c'est qu'effectivement, on consomme de l'information dans une seule plateforme, et ça, c'est vraiment le cœur de Facebook, c'est d'agréger de plus en plus de contenu et même d'héberger du contenu au sens avec les Facebook Instant Articles, donc qui se chargent très vite. On va pas faire l'effort d'aller chercher ailleurs. Mais il faut pas oublier que sur l'élection américaine, il y a aussi d'autres soucis que Facebook qui peut jouer un petit peu. Typiquement, c'est pas Trump qui a le plus de voix, donc et c'est Clinton, donc il y a aussi un système électoral qu'il faut parfois aussi critiquer, autre chose que le réseau social. Donc il y a d'autres sujets qui peuvent poser problème que uniquement Facebook qui peut influencer dans un sens ou dans l'autre, plutôt dans une forme d'écho ou d'amplification, mais finalement, il va pas faire changer un avis. Si on veut lire des blogs conspirationnistes, il y en a des très bons et qui fonctionnent largement sur Facebook. Donc, il y a pas forcément besoin de Facebook pour se remplir la tête avec un seul mode de pensée et faire finalement assez peu d'efforts pour construire un intellect avec l'ensemble des avis en présence. Donc, Facebook, effectivement, amplifie les faits, mais finalement c'est parce qu'on est des fainéants au départ et qu'on va pas chercher la critique. Typiquement, moi je sais, enfin voilà, j'ai un certain nombre d'opinions politiques dans un sens ou dans l'autre, je fais l'effort et c'est frustrant et je m'énerve tout seul devant mon poste de radio ou de télé quand j'entends des gens où je suis fondamentalement pas d'accord, mais intellectuellement ça me stimule, je me dis voilà, ça m'oblige à avoir une opinion. Forcément, si on écoute que des gens qui sont d'accord avec nous, bah ouais, ça lobotomise le cerveau.
C'est d'ailleurs ce que Guillaume Champeau avait tweeté il y a pas très longtemps, fondateur de Numérama, qui l'a quitté il y a quelques jours pour d'autres activités. Il disait justement qu'il était dans une démarche de liker plein de choses sur des sujets qui n'étaient pas dans son cœur d'affinité au départ et que ça lui faisait un peu violence. Je voudrais pas qu'on mélange par contre peut-être deux notions, et j'ai peur dans mon déroulé de les avoir maladroitement associées. Il y a deux choses. D'une part, le fait qu'on a des news qui nous enferment de par le fonctionnement même de Facebook dans ou des infos, des remontées, des partages sur un territoire de pensée et qu'on s'ouvre pas assez peut-être à des thèses alternatives. Donc ça, c'est le fonctionnement du réseau social, et c'est quelque part, au-delà d'être un problème, c'est une caractéristique de laquelle il faut être conscient. Et après, il y a l'authenticité des informations qui sont remontées, que ce soit des informations avec des jugements de valeur qu'on partage ou qu'on ne partage pas. En tout cas, ce sont parfois des infos qui sont purement et simplement fausse, c'est-à-dire c'est comme si moi demain je racontais des activités sexuelles illicites de la part de Pierre-Olivier ou peut-être des activités de vente d'armes de Cédric Tambois. Enfin, je peux inventer plein de choses et les lâcher, c'est vraiment ça. Donc il y a peut-être ces deux notions. Il y a la notion, encore une fois, de s'ouvrir à des thèses d'opinion qui sont pas celles qu'on partage au départ, et ça, c'est une démarche qui ne se limite pas aux réseaux sociaux mais qui est globale. Et puis de l'autre côté, il y a ces sites de news non authentiques, auprès desquels est-ce qu'il faudrait pas quand même lutter? Tu disais tout à l'heure, Pierre-Olivier, que c'était presque plus un problème sur Facebook. Pour autant, sur Google, si je me trompe pas, il y a un algorithme qui va quand même arriver à plomber ces sites qui relaient des infos un peu moisies quand même.
Tout à fait, mais là encore, la différence entre un moteur de recherche et un réseau social, elle est fondamentale pour expliquer les problématiques auquel Facebook peut faire face sur ce sujet. Il y a sur un moteur de recherche la recherche de la pertinence. La pertinence, c'est pas forcément la vérité. Attention. Ceci dit, il y a au moins une idée de consensus général qui tend, en général, dans des sociétés modernes à peu près éduquées, à ressembler au moins de loin à la vérité, aux faits. Et donc, Google va aller clairement sur des algorithmes qui permettent de trier entre guillemets le bon grain de l'ivraie. Là où Facebook est finalement un espace d'expression. Et là-dessus, faut se rappeler que les Américains sont extrêmement attachés à cette liberté d'expression, même si, évidemment, il y a plein de sujets sur lesquels il est impossible de s'exprimer, notamment sur les tétons. Mais
c'est pas bien.
c'est très mal. Mais il y a quand même cette idée importante. On doit pouvoir tout dire. Maintenant, il y a des choses qui tombent sur le coup de la loi, la diffamation, etc., etc. Et là, du coup, on rentre dans une autre problématique, en fait. C'est-à-dire que moi, en tant que citoyen, en tant qu'utilisateur de Facebook, je devrais être capable de pouvoir partager un lien d'un article fictionnel sur, je sais pas, je dis n'importe quoi, l'utilisation, par exemple, des mails que Clinton a récoltés quand elle était secrétaire d'État. J'attire l'attention en particulier de nos auditeurs français sur le fait que l'affaire Clearstream a été révélée à 100% au travers d'une œuvre fictionnelle parce que le journaliste qui avait investigué sur le sujet avait trop peur des pressions, des retombées, etc. Sur le sujet. Donc il a publié un roman, une œuvre de fiction. Donc c'est important de pouvoir dire tout ce qu'on veut. Maintenant, évidemment, sur les sujets qui tombent sur le coup de la loi, la grosse problématique auquel on fait face avec des outils comme Facebook, je rappelle qu'un outil informatique, ça ne fait rien de plus que ce qu'on peut faire dans la vie de tous les jours, ça fait juste des millions, voire des milliards de fois plus rapidement. Donc on a un problème de masse. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un dit quelque chose de faux sur nous et que ça tombe sous le coup de la loi? Ben on porte plainte, il y a un jugement en diffamation, la personne a la possibilité de faire appel, etc. Ce processus, c'est le seul en fait qui est pas adapté à l'outil informatique, puisqu'il n'y a pas de notion de jurisprudence automatisée qu'un Facebook pourrait utiliser. Il peut pas aller sourcer des informations, des décisions de justice pour les appliquer, pour trier sur ce qu'on partage sur son réseau, parce que pour le moment, ça n'existe pas. Est-ce que la solution elle est pas plutôt là? Probablement, parce que tu l'as évoqué, le problème de censure, il est déjà avéré avec Facebook sur les concepts de nudité, où là encore, on est dans le biais culturel américain où la nudité est tabou total. On voit bien qu'il y a des retraits de contenu qui ne devraient pas avoir lieu. Imagine si on était dans cette dans ce tabou-là pour les informations non vérifiées. Et non vérifiées, ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses, ça veut dire qu'on ne sait pas si elles sont vraies au moment où on les lit. Cette pré-censure, elle pourrait être extrêmement dommageable, peut-être même plus que toutes ces fausses nouvelles qui pullulent. Donc l'arbitrage, encore une fois, pour moi, il est au niveau de la société et de son fonctionnement, notamment de la justice, mais pas forcément seulement de la justice. On doit trouver des moyens pour gérer la quantité d'informations que les gens peuvent partager beaucoup plus vite qu'à une certaine époque. J'ajouterai un autre petit point quand même, de la part de gens qui ont des millions à consacrer à des campagnes électorales, je trouve ça un peu petit aussi de rejeter la faute sur un média dont ils se sont massivement servis des deux côtés. À un moment donné, quand on a des experts en communication, des équipes de communication, plusieurs centaines de personnes, on devrait être capable d'arriver à des solutions qui permettent de challenger ce genre de problème. Et l'autre dernier point, et après je me tais, je laisse parler les autres, c'est que le simple concept de primaire, by the way, encourage fortement ce genre de comportement, puisque c'est un processus clivant par nature, et c'est un processus qui masque opinions alternatives, y compris celles qui sont autour des 30-40% d'opinions. On l'a vu avec les partisans de Sanders, qui étaient loin d'être une population négligeable. Aujourd'hui, sur l'élection présidentielle, c'est une population complètement négligée. Ça se ressent aussi sur les contenus Facebook qui ont été partagés pendant ces élections.
Sur l'organisation plutôt des élections, de ce type d'élection, il y a d'ailleurs une excellente vidéo sur laquelle je vous invite à aller regarder un petit peu. C'est la chaîne Science Étonnante, dont
bonus.
On a déjà parlé dans ta café. Ah, je suis en train de te le massacrer, alors j'arrête tout de suite et tu le reprendras tout à l'heure. Cédric, du coup, est-ce que tu avais encore quelque chose à préciser sur cette, entre guillemets, affaire Facebook, enfin qu'on résume à Facebook, mais qui est, on l'a décrit, je pense, beaucoup plus large que tout ça, ou est-ce qu'on passe aux autres éléments qui tournent autour de Facebook?
Bah, juste pour conclure là-dessus, même si malheureusement c'est ni une solution ni une baguette magique, c'est que le sujet de fond ou la solution de fond, au-delà des éléments de justice automatisée, parce qu'il y a toujours des gros biais qu'il peut y avoir derrière, je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'éducation et sur remonter le niveau intellectuel global des personnes qui doivent s'exprimer, qui doivent voter, d'être capable de comprendre la portée de son geste et d'analyser avec moins de passion et plus d'intellect ce qui se dit. Typiquement, quand on voit les énormités qu'a pu dire Donald Trump sur les femmes ou les handicapés, enfin plus en l'occurrence plus encore plus sur les handicapés que sur les femmes, je trouvais ça encore plus choquant, où il faisait huer des handicapés, ce genre de choses, et que derrière il est capable de les nier complètement en disant je l'ai jamais dit. Il y a des mensonges éhontés qui sont flagrants comme le nez au milieu du visage et qui est même pas une erreur d'interprétation. Enfin, et à un moment, c'est des comportements qui, si on a un peu d'amour propre, de sens, de bon sens, enfin j'en sais rien, ou un peu d'éducation, devrait, je pense, pour une partie de l'électorat, même qui est de ce côté-là de l'échiquier politique, être capable de se dire bah non, manifestement c'est quelqu'un qui n'a pas mes valeurs. Donc il y a un sujet d'éducation et de valeurs de fond qui malheureusement n'est pas simple, parce que c'est une affaire de génération, et voilà, faut pas tout mettre sur le dos de Facebook. Je rejoins Pierre-Olivier, quand on est capable de dépenser des millions d'euros dans Facebook, on peut largement aller cibler les électeurs du camp adverse pour aller leur proposer des contenus dans un sens ou dans l'autre. Donc faut réfléchir plus loin, faut dépassionner le débat. Malheureusement, la primaire comme les élections en général sont pas du tout des élections dépassionnées, et c'est bien le drame.
Un petit mot sur l'algorithme qui trie ou qui affiche les news, juste pour dire, et ça m'avait fait vraiment marrer, il y avait un article qui avait relayé que 4 étudiants ont proposé une solution pour régler le problème de ces fake news en 36 heures. Alors je sais pas si c'est vraiment vérifié, vérifiable, si jamais c'est aussi simple, ça me paraît tellement trivial que ça me paraît grossier. On voit les 4 étudiants qui sont tout contents sur la photo, et franchement c'est les petits neveux qu'on a autour de nous, c'est des petits jeunes, donc c'est assez captivant. Et puis ils décrivent une méthodologie assez simple qui va s'appuyer sur le ranking des moteurs de recherche, essayer de voir si les sites sont eux-mêmes sourcés sur d'autres sites, etc. Donc c'est assez rigolo. Je sais pas si c'est qu'ils ont trouvé une solution simple et qui n'a pas été implémentée, ou si c'est un petit peu caricatural. Je vous propose, pour terminer cette grande rubrique Facebook, de citer 3 titres de news qui tournent aussi autour de Facebook, et puis à tour de rôle, vous pouvez éventuellement, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, rebondir sur une ou plusieurs news. La première, c'est le fait que Facebook rachèterait, c'est à mettre au conditionnel, parce que là encore, il faudrait vraiment pouvoir vérifier tout ça, mais rachèterait des mots de passe sur le Darknet, pour vous faire peur, pour les comparer aux mots de passe de ses utilisateurs, pour les avertir du fait qu'ils ont des mots de passe qui sont pas sécurisés et qui sont utilisés sur d'autres services qui ont fait l'objet de fuites. Et a priori, ce serait pas les seuls. Facebook, il y aurait plusieurs acteurs qui fonctionneraient comme ça. La démarche, en tout cas, est assez intéressante. Facebook arrête de collecter les données des utilisateurs WhatsApp en Europe après la pression des gouvernements. Alors c'est temporaire, hein. Ils avaient commencé en août à en gros récupérer, je schématise, dans Facebook les données que vous avez insérées dans WhatsApp, puisque WhatsApp avait été racheté par Facebook. Et suite à plusieurs pressions de gouvernement, Facebook a dit bon ok, bon, on va faire une petite pause, on va regarder, on va vérifier que ça pose pas de soucis, puis on reprendra après. Donc on attend un petit peu, ça fait un petit peu de souffle là-dessus. Et puis une initiative que je trouvais intéressante, le safety check qui avait été rendu célèbre peut-être en France, mais peut-être ailleurs dans le monde pour d'autres occasions, mais chez nous en tout cas à l'occasion des attentats qui permettent de se déclarer comme en sécurité, va pouvoir être déclenché par la communauté. Donc grosso modo, c'est plus uniquement Facebook qui va pouvoir choisir de déclencher ce safety check. Ça va pouvoir être communautaire. Pierre-Olivier, est-ce qu'il y a une news sur laquelle tu veux rebondir ou une remarque en particulier sur Facebook?
Non, c'est bon, je pense qu'on a pas mal parlé de Facebook déjà.
ça en fait assez. Cédric, une petite remarque, un petit complément?
Non, passons à la suite.
Alors, on va passer à la rubrique suivante où on va traiter de plein de petites thématiques sous différents volets. On va quand même faire un enchaînement intéressant avec le social media sur d'autres plateformes. Alors, Instagram, là encore, hein, je vais citer deux news et puis je vous laisse à tour de rôle réagir si vous le souhaitez. Quelque chose qui prête peut-être pas beaucoup de place aux commentaires, quoique c'est Instagram qui met en place le live éphémère sur sa plateforme. Donc, si jamais vous aviez besoin d'éléments qui vous permettaient de montrer qu'on continue à exploiter les bonnes idées dans Instagram, c'est une preuve de plus. Et ils exploitent aussi quelque chose qui était uniquement dispo sur Snapchat, c'est l'envoi de messages privés, là aussi éphémères, donc qui s'auto-détruisent, donc nouveau sur Instagram. Et puis, une démarche que j'ai trouvée curieuse pour ma part du côté de Twitter, et j'en avais fait une petite mention dans la voix de Guillaume, mon petit streetcast, quand j'avais vu le truc sortir, où désormais ils proposent les QR codes sur les profils Twitter. Ils veulent copier un petit peu ce que fait Facebook Messenger et Snapchat, et j'expliquais dans la voix de Guillaume que je trouvais pas ça très très approprié sur Twitter, et je trouve que c'est un signe de plus de Twitter qui se débat comme un diable pour essayer de sortir la tête de l'eau. Pierre-Olivier, une remarque sur de manière générale, hein, peut-être sur Twitter ou sur Instagram ou sur ces éléments-là.
Là aussi, je passe mon tour.
Ça, on va aller vite comme ça. Cédric.
Bye.
Bon, écoutez, je vais faire l'épisode tout seul, ça va être très bien. Alors, hardware, sans transition, on va parler un petit peu matériel. Apple rappelle des iPhone 6S pour leur batterie et des iPhone 6 Plus pour la maladie du touchscreen. On en a vu pas mal des appareils qui étaient passés sous le prisme de l'impossibilité de s'en servir sur le touchscreen. Ça y est, c'est reconnu. Donc, il y a une procédure de rappel, mais il faut quand même payer. Il faut payer, en tout cas chez nous, 167,10 € pour changer l'écran, et si jamais vous aviez payé plus cher, ils vous remboursent la différence. Ils sont sympas quand même. Après la fin des écrans chez Apple, toujours, ce serait la fin des routeurs. Là, c'est des rumeurs persistantes qui montrent que Apple souhaiterait réduire un petit peu le périmètre de ses activités pour se concentrer peut-être sur certains appareils sur lesquels ils ont plus de rentabilité ou de savoir-faire, hein, les savoir. Donc je voulais aussi toucher un mot de ça et puis voir si ça vous faisait réagir. J'espère avoir un peu plus de chance sur le périmètre d'activité d'Apple. Qui a bien eu des échanges avec McLaren sur les voitures, ça a été confirmé, mais évidemment ça n'a rien donné. Nokia qui prévoit de son côté un retour sur le marché du mobile en 2017, je crois que c'est la fin de la période de transition qui avait suivi le rachat par Microsoft, où il s'était interdit contractuellement de développer des choses sur le mobile. Et puis la sortie du OnePlus 3T, quel nom sexy, et la fin du OnePlus 3. Cédric, est-ce qu'il y a une de ces news qui suscite ton intérêt?
Oui, alors c'est moi, je viens de rajouter la dernière là sur le OnePlus 3T.
C'est pour ça.
Ben voilà. c'est vrai que c'est étonnant parce que suite au OnePlus 3 qui a eu une sortie un peu compliquée avec ses couleurs d'écran qui a été assez vite corrigée, OnePlus a sorti un OnePlus 3T qui est grosso modo le même sous stéroïde avec un peu plus de puissance, mais ils sont assez similaires sur pas mal de points, et le OnePlus 3T est vendu 40 € de plus, et là où en fait on pouvait imaginer une gamme alors un peu moins lisible de deux téléphones avec 40 € d'écart, en fait OnePlus arrête de vendre le OnePlus 3, celui qu'on avait offert il y a deux ou trois épisodes dans Tech Café, pour se concentrer sur le OnePlus 3T qui a effectivement un processeur un peu plus sympa, mais par contre ce qui est chouette, alors on verra si ça tient dans la durée, c'est qu'ils maintiennent les mises à jour aussi sur le OnePlus 3. Alors ça paraît évident pour un téléphone qui a moins de 6 mois, mais en fait vu que le hardware est quasiment le même, les mises à jour iront quasiment en même temps sur les deux modèles, que ce soit la version 3 ou la version 3T. Ensuite, pour rebondir sur ce que tu disais sur Apple, moi je reste assez peu persuadé qu'ils vont se lancer du jour au lendemain dans les voitures, dans le sens où quand on voit la difficulté qu'a Tesla pour industrialiser une production mondiale sur des volumes encore assez humbles sur leur dernier modèle. Enfin voilà, on sous-traite pas la production d'une voiture, donc enfin voilà, il y a un vrai sujet chez Apple. Et enfin, moi j'y crois pas avant de longues années. Quand on voit qu'ils arrivent déjà pas à sortir une vraie télé, bon, on va voir.
Avant de passer le micro à Pierre-Olivier, j'en profite pour rebondir, puisque j'avais prévu de le dire plus tard, mais on va le dire tout de suite, qu'Elon Musk a annoncé la construction d'une gigafactory en Europe. Alors, on ne sait pas exactement où, mais vous savez, la gigafactory, c'est cette immense usine complètement bluffante en forme de diamant qui n'est pas finie, mais qui commence déjà à fonctionner dans le Nevada et qui va faire plein de voitures. Pierre-Olivier, une réaction sur les éléments qu'on a traités ?
Bah, juste pour réagir sur les voitures, bon, je rejoins Cédric sur le côté légèrement improbable de l'aventure d'Apple dans le marché de l'automobile. J'aimerais aussi ajouter que d'un point de vue purement financier, Apple n'est plus, et ce depuis longtemps, depuis le début de l'aventure de l'iPod, n'est plus dans une logique commerciale de générer le gros de ses bénéfices sur le prix de vente. Évidemment, c'est un facteur important, mais Apple est aujourd'hui quand même beaucoup dans une économie du contenu qu'on a un peu plus de mal à imaginer sur le marché de l'automobile, sans des changements structurels avec des autos autonomes en partage dans lesquels effectivement on consommerait du contenu, mais là aussi il va falloir un Netflix like, bref, il y a beaucoup de pions à bouger côté Apple avant même d'imaginer permettre de générer des revenus avec une voiture, là où un Google a déjà toutes ses briques de poser avec de la vidéo à la demande et surtout de la pub sur le web, parce que c'est le web qu'on consommera le plus quand on ne conduira plus.
Ouais, on sait qu'ils ont a priori hein, largement baissé leurs investissements, alors pas forcément peut-être financiers, mais en tout cas leur démarche sur le domaine de la voiture, mais évidemment, on n'en sait pas plus. Sur les jeux, alors j'irai peut-être faire un clin d'œil à Pierre-Olivier après cette news pour voir si ça le fait réagir, mais je ne me tournerai pas vers toi Cédric, car je sais que c'est pas un sujet qui te passionne, mais en tout cas, on a eu des échos de la part de Nvidia sur la Switch, dont on a évidemment longuement parlé dans Tech Café, et si cher au cœur de Guillaume Poggiaspala, serait... Alors, Nvidia est assez formel. Il sera facile de porter des jeux sur Nintendo Switch, sous-entendu des jeux PS4 et Xbox One, et la console aura besoin de studios tiers pour percer. Alors, moi, sur ce deuxième point, j'en suis assez convaincu quand on voit effectivement le panorama des consoles aujourd'hui et ce que fait d'habitude un Nintendo. J'espère, je croise les doigts, qu'on aura énormément de titres qui arriveront sur Switch, mais qui pourraient être présents sur la PS4 et la Xbox One. Et pour autant, évidemment, on ne sait pas tout sur cette console, mais on en avait longuement parlé. Les ressources dans cette machine ne sont pas du tout les mêmes que la PS4 et la Xbox One. Donc, ça laisse quand même un petit peu dubitatif. Et pour autant, Nvidia aussi affirme que la Nintendo Switch a été conçue pour faciliter la vie des studios pour les portages. Alors, ils ne disent pas que ça va se faire en un claquement de doigts, mais malgré une structure assez différente des consoles actuelles, parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y a une puce mobile qui fonctionne là-dedans, hein, c'est un Integra Custom, finalement le portage serait assez facile. Ça laisse songeur, rêveur. Pierre-Olivier, est-ce que tu as une console de salon ? Et je ne crois pas qu'on ait eu l'occasion d'avoir une éventuelle réaction de ta part sur la Switch, mais je ne sais pas si tu en as une à transmettre.
J'ai pas de console et j'ai pas malheureusement pas assez le temps de jouer. Donc quand je joue, c'est sur PC puisque c'est l'outil le plus près. De toute façon, j'ai pas de télé chez moi. Donc comme ça, c'est réglé.
Alors la Switch, tu pourrais l'acheter parce que t'as pas besoin de télé pour jouer avec.
Définitivement. Surtout, moi ce que je vois là-dedans, c'est que Nintendo a probablement beaucoup appris de sa collaboration avec Niantic sur Pokémon Go, qui pour le coup, on se parle d'un tandem tout à fait improbable parce que l'industrie du jeu vidéo, et a fortiori du jeu vidéo console, est quand même très éloignée de la culture des entreprises de développement logiciel. qui est la culture d'origine de Niantic. Nvidia, c'est certes une compagnie de hardware, mais c'est une compagnie qui a une forte culture logicielle, elle aussi. On l'a vu avec ses intégrations d'Android quasi parfaites sur les différentes moutures de la Shield. Mais on l'a vu sur beaucoup d'autres sujets. J'ai l'impression que Nintendo est en train de devenir une entreprise plus compétente, avec une culture plus flexible, plus souple, des développements plus rapides. Et je pense que le partenariat avec Nvidia, on le voit, Nvidia communique beaucoup sur cette console, donc on sent qu'ils sont pas simplement fournisseurs du pros. Je pense que ça peut être très positif. Et du coup, sur cette idée de portage simplifié, moi, je suis pas sûr qu'il s'agisse d'une caractéristique hardware. Je pense qu'il s'agisse beaucoup plus, s'agit plutôt d'une caractéristique du SDK de la console, donc de la partie logicielle. C'est quelque chose que je crois effectivement. Je pense qu'on est, on va être beaucoup plus près d'un SDK de développement mobile facile d'accès, pas très cher pour les studios, que d'un SDK de console qui est en général très onéreux, très lourd et qui vient parfois même avec du matériel custom.
Un changement de philosophie donc dans la mise à disposition d'un environnement de jeu hyper intéressant, et évidemment on le suivra de près. Un petit mot sur tout ce qui est autour de la confidentialité des données. Alors un sujet qui moi m'a fait plus sourire qu'autre chose, on s'est offusqué en découvrant qu'Apple synchronisait les logs d'Apple, donc les journaux d'Apple, hein, des 4 derniers mois des utilisateurs à travers iCloud. Donc effectivement ça fait pas partie des éléments qui sont annoncés par Apple comme étant synchronisés sur iCloud, et pour autant ce sont des informations qui sont synchronisées. Visiblement ça soulève des émois de tout le monde, et pour ma part j'ai, alors on va forcément me taxer de fanboy, mais j'ai pas été particulièrement plus ému que ça. Effectivement l'erreur c'est de ne pas communiquer dessus, mais je ne vois pas en quoi les logs d'Apple sont plus sensibles que bon nombre d'informations qui sont chiffrées à travers les comptes iCloud et qui circulent par le web. Et puis toujours dans la confidentialité des données, et encore une fois je vous passerai le micro après ces deux news, des échos sur les affaires de déverrouillage des smartphones dans le cadre de jugement. On en avait parlé suite évidemment à l'affaire de San Bernardino, on va pas revenir dessus, mais sous le prisme de l'élection de Donald Trump, il y a des émois, il y a des envies en tout cas. Là en l'occurrence c'est Cyrus Vance, donc ceux qui se rappelle de l'affaire DSK, enfin moi en tout cas c'est là où j'avais entendu le nom de cette personne, qui est en gros l'équivalent du procureur en France, hein, mais à New York, a demandé à Donald Trump de l'aider à créer une loi fédérale qui obligerait les grands acteurs, notamment Apple et Google, à débloquer les smartphones en cas de saisie. Ils annoncent qu'ils ont un parc de smartphones de plus de, alors je crois que c'est 400, oui c'est des iPhones, 400 iPhones légalement saisis, mais qui sont totalement inexploitables. Donc on a vu que ce cas dont on avait longuement parlé est largement répandu à plusieurs, a été largement répandu à plusieurs occasions, et 42 de ces appareils sont en relation avec des homicides ou des cas de tentatives de meurtre, et pour autant bah ils peuvent rien en faire, et ils veulent profiter de l'élection de Donald Trump pour sans doute s'appuyer évidemment sur ses positions assez vindicatives sur le sujet pour forcer les acteurs à déverrouiller ces smartphones. Cédric, une réaction sur l'une ou l'autre de ces news?
Ça va dans le sens de ce qu'on a déjà parlé, c'est que effectivement Apple chiffre bien ses iPhones, qui est plutôt bon et qui empêche de faire ce qu'on veut, enfin ou ce que quelqu'un ne voudrait pas qu'on fasse. Le conseil c'est plutôt chiffrer vos téléphones quand c'est pas par défaut, en l'occurrence sur un certain nombre de terminaux Android. Moi ce qui m'inquiète c'est qu'il y a un certain nombre de failles qui sont découvertes en ce moment sur la possibilité de lire des téléphones malgré leur verrouillage, donc faites vraiment gaffe là-dessus. Et les nominations que fait Trump à la je sais plus sur quelle grande institution de sécurité américaine, sur des gens qui ne sont pas du tout favorables au chiffrement, ou en tout cas favorables à la présence de failles dans le chiffrement, où là ça devient beaucoup plus inquiétant sur le fond.
Pierre-Olivier, une remarque ?
Encore une fois, l'informatique c'est rien de, c'est pas des nouvelles possibilités, c'est toujours les mêmes des milliards de fois plus vite. Et donc quand on commence à fouiller dans les informations de quelqu'un et qu'on peut le faire des milliards de fois plus vite, on sait tous plus ou moins où ça peut arriver. Je vis dans un pays qui est relativement modéré quand même, hein, qui est le Canada, où pourtant on s'est aperçu que la GRC, donc notre équivalent du FBI, la Gendarmerie Royale, avait les clés de déchiffrement des BlackBerry. Et ce sont des choses qui arrivent assez facilement quand on commence à aller sur ce genre de direction. Ça serait assez dommageable que ça arrive aux États-Unis. Pour autant, ça me semble normal de pouvoir déverrouiller et déchiffrer un téléphone à des fins d'enquête. La problématique, elle est plus dans comment la justice est indépendante, qui sont les acteurs qui vont faire ça? Est-ce que c'est le FBI, un autre service de police? Est-ce que ça va être des acteurs indépendants? Est-ce que ça va être des magistrats? Nous, la situation qui s'est passée au Canada, c'est que c'était la police. On s'est aperçu, vous êtes pas forcément au courant parce que c'était un petit peu plus local à Montréal, que plusieurs journalistes ont vu leur téléphone être mis sur écoute suite à un ou deux articles révélant des choses sur le maire de Montréal. Ça va vite, très vite, les dérives. Il faut vraiment être vigilant. Et d'ailleurs, ça c'est un autre message aussi pour les journalistes, parce qu'en l'occurrence. Être pris dans une enquête quand on est journaliste, c'est normal puisqu'on a des sources d'informations qui sont pas toujours du bon côté de la loi. Ça fait partie de la vie d'un journaliste. Il faut jamais faire confiance à son téléphone. Il faut être un petit peu malin et protéger ses sources correctement, puisque bon, avec ce scandale au niveau de la ville de Montréal, on a eu des journalistes qui s'offusquaient que les policiers aient eu accès à leur log téléphonique, etc. Mais bon, en même temps, si c'est pas la police, il y a aussi d'autres gens qui s'intéressent, qui respectent pas forcément la loi non plus. Bref, protégez vos informations, soyez un petit peu malin.
Protégez-vous. Pierre-Olivier, est-ce qu'on doit te libérer ou est-ce que tu as encore un petit peu de temps avec nous ?
5 minutes.
5 minutes. Alors, on va passer à ce que j'ai appelé Next Move. En gros, c'est comment des plateformes peuvent évoluer. Pas d'obligation de réaction de votre part encore, comme je le disais tout à l'heure, mais Airbnb qui devient carrément une agence de voyage. Hein. Alors, on l'avait clairement décrit, c'est que Airbnb profitait et s'éloignait de son système où il mettait juste en location des biens immobiliers entre particuliers, avec une démarche qui s'ouvre de plus en plus. Et évidemment, si on était à leur place, je pense qu'on ferait tous pareil. On aura tous la même envie, c'est de capitaliser là-dessus pour aller un peu plus loin. Et puis, alors quelque chose qui est peut-être un peu obscur pour moi, et si tu as moyen de m'éclairer là-dessus, Pierre-Olivier ou Cédric d'ailleurs, je suis très preneur, mais Microsoft rejoint la Linux Foundation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que Microsoft propose Windows comme un système Linux
gratuitement?
Gratuitement? Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien. Peut-être Pierre-Olivier avant que tu nous laisses.
Microsoft propose déjà beaucoup de Linux au travers de la plateforme Azure. Microsoft commence déjà depuis quelques mois à contribuer au développement de Linux, notamment pour ses besoins en cloud. Ça fait quelques temps maintenant que Microsoft se transforme en une entreprise beaucoup plus agnostique en termes de méthode, en termes de process, en termes de technologie. Donc c'est pas vraiment une surprise pour moi, même si c'est sûr qu'au regard de la réputation qui s'était construite d'empire propriétaire à coup de licence, etc., ça peut faire bizarre. Aujourd'hui, c'est plus la réalité économique d'un Microsoft qui cherche beaucoup plus à ressembler à un Google qu'à un Apple.
Cédric, une remarque là-dessus ?
C'est tout à fait dans le sens de l'histoire de Microsoft depuis effectivement le changement de CEO. Donc c'est, moi je vois ça plutôt d'un bon œil. Donc et sur ce que tu disais sur Airbnb, ça me paraît complètement normal. À partir du moment où on possède le contact avec le client, on serait bien con de pas essayer de monétiser l'ensemble de son parcours et d'être apporteur d'affaires dans un certain nombre de points. Et le voyage est un très très bon exemple de mise en relation avec un certain nombre d'intermédiaires qui peuvent apporter gros.
Microsoft qui, allez, 15 ans, il y a 15 ans, Steve Ballmer décrivait Linux comme étant un cancer, comme quoi les choses tournent en 15 ans. On va passer à une autre rubrique, le machine learning. Alors, bon, Guillaume va nous manquer, Guillaume Pogjaspala n'aura pas forcément toute l'expertise d'habitude dans les autres épisodes, mais pour autant, on peut quand même en parler pour souligner les évolutions. Alors, elles sont toutes Google hein, dans ce domaine-là. Google qui améliore la résolution d'image avec du machine learning. On nous a toujours appris qu'une image pouvait être compressée, c'est-à-dire en gros qu'on rassemblait les pixels par paquet et ça faisait d'ailleurs des petits artefacts sur le JPEG, mais qu'on pouvait pas aller dans l'autre sens, c'est-à-dire inventer comment découper plein de gros pixels en petits pixels. Google est en passe d'y arriver avec du machine learning. C'est
sauf, sauf dans les experts. Hein. Les experts, on peut toujours zoomer sur une vidéo complètement floue pour avoir le visage du tueur.
Ouais, c'est vrai. En fait, les experts étaient précurseurs et ils étaient déjà équipés des services de machine learning de Google. C'est beau. Google qui vous met aussi au défi avec son intelligence artificielle pour identifier vos dessins. Je ne sais pas si tu as testé ça, Cédric.
Non, pas du tout. J'ai essayé de tester la nouvelle reconnaissance visuelle de visage au sein de Google Photos, mais manifestement, je ne suis pas élu. Enfin, ça ne va pas bien. Donc,
il faut que tu... Il y a une petite manip à faire.
Je l'ai fait, tu penses bien.
Ah, et ça ne marche pas.
Ben non, il ne veut pas. C'est pas... Ça n'a pas remis, il ne se passe pas grand-chose.
On va en reparler de Google Photos après. Moi, j'ai testé les petits graffitis. En fait, c'est assez rigolo. Ça s'appelle Quick Draw. Et tu peux même le faire à la souris, hein, sur ordinateur. Et bon, d'ailleurs, c'est là où je l'ai testé. Mais je sais pas si, je pense que ça marche aussi sur mobile. Mais c'est hyper rigolo de voir que, il te demande de dessiner un truc. Tu le dessines et il reconnaît. Mais il reconnaît aussi, si tu dessines pas ce qu'il a demandé de dessiner. Et c'est vraiment bluffant. Et puis, Google qui lit sur vos lèvres. Là encore du machine learning pour aider les personnes qui voudraient lire sur les lèvres. Alors ça peut avoir un côté un peu accessibilité, mais pourquoi pas, on pourrait s'imaginer, c'est un des usages qui est décrit dans l'article que vous avez en lien dans les notes de l'émission. Si par exemple vous voudriez parler avec votre OK Google ou votre Siri, mais sans le dire en fait. Donc vous pourriez être en public, le dire, et votre smartphone, au lieu de vous écouter tout le temps, vous regarderez tout le temps sur les lèvres. Bon, il faudrait une position un peu bizarre.
Ce qui est surtout impressionnant, c'est la qualité avec laquelle Google arrive à le faire, en tout cas beaucoup mieux dans les tests qui ont été faits que les lecteurs de lèvres, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on les appelle, mais professionnels. Je crois qu'on multiplie quasiment par 4 les performances, donc on reste sur une approximation à peu près à 40-45%, mais c'est plutôt assez chouette en termes de performance et assez effarant aussi, ça dépend de comment on regarde la fenêtre, mais de ce qu'est capable de faire, ce qu'on sont capables de faire ces nouveaux moteurs d'intelligence artificielle.
Ouais, c'est bluffant. Et c'est là où c'est rigolo parce que tu soulignes, moi, ce qui m'a carrément surpris, c'est qu'à la limite, bon, le fait qu'il soit capable de faire ça, on s'étonne plus de tous ces progrès assez incroyables. Mais en gros, alors les résultats. Sur 200 clips sélectionnés arbitrairement, la machine trouvait 46,8% des mots sans erreur contre 12,4% pour le professionnel. Alors là, j'étais complètement bluffé de me dire qu'un professionnel de la lecture sur les lèvres n'était capable de reconnaître que 12,4% des clips qui lui étaient suggérés sans erreur. Ça m'a laissé songeur, moi. Donc, je pense que c'était peut-être des clips qui n'étaient pas faciles à lire. Bon, un petit mot sur le business. Alors, évidemment, je ne vais pas trop en parler, sinon je vais avoir plein de commentaires et de sollicitations sur
tu
les réseaux sociaux.
Tu cherches haters, quand même.
Si vous voulez m'envoyer vos messages, allez-y, mais j'y répondrai pas. Juste un mot pour dire que justement, hein, l'affaire des Samsung Galaxy Note 7 aura eu assez peu d'impact sur l'image de marque de Samsung. Donc voilà, c'est intéressant de voir un petit peu ce type d'écho qui en effet, contrairement à ce qu'on disait d'ailleurs sur le fait que les appareils, ça aurait un gros impact, y compris sur le marché Android. Bah, finalement, pas tant que ça peut-être. Accessibilité, on va faire peut-être un petit écho à ce qu'on disait sur la lecture sur les lèvres de la part de Google. Microsoft qui aide carrément les daltoniens à différencier certaines couleurs avec une app. J'ai trouvé ça super malin. Alors là, je crois vraiment pas qu'il y ait d'histoire de machine learning, hein, c'est simplement de l'interprétation d'image. Ils vont être capables d'accentuer des contrastes de couleurs et des saturations pour aider à différencier certaines teintes que les daltoniens pourraient avoir comme difficulté à différencier. C'est quand même beau ce qu'ils font Microsoft. Hein.
C'est vrai que c'est super malin, hein. Ça c'est évident. C'est des usages tout cons auxquels on n'a pas forcément pensé et c'est des choses qui peuvent peut-être changer un petit peu la vie. Ou alors même si c'est compliqué de se balader toujours avec son téléphone comme finalement lunettes pour corriger la vue, mais c'est une super idée, c'est vachement malin.
Ouais, puis c'est une, je trouve que c'est une démonstration de d'évolution technologique. On pourrait très bien, allez, j'extrapole à fond, mais imaginez que nos voitures demain, sur lesquelles c'est peut-être là aussi, il peut y avoir des difficultés pour les daltoniens. Je suis pas expert hein, en daltonisme, mais peut-être sur certaines signalétiques sur la route, dans certaines conditions de luminosité, si jamais il y a le pare-brise de ta voiture qui est capable d'interpréter les couleurs et te les réafficher pour que tu ne sois pas amené à te tromper, ça peut être une idée assez sympa.
D'ailleurs, je rebondis. Vous verrez, on rajoutera dans les notes de l'émission et puis ce sera peut-être une transition pour les bonus. Il y a Tesla qui a mis une nouvelle vidéo de comment ces nouvelles voitures, enfin en tout cas leur nouveau système de voitures autonomes interprète et lit les panneaux. Et c'est assez intéressant de voir comment la voiture réagit à l'environnement, les panneaux de circulation et aussi ce qui se passe quand il y a un piéton qui est sur le bord de la route et qui devrait pas y être et qui est finalement assez prudent par rapport à ce que un conducteur lambda aurait fait, en l'occurrence pas s'arrêter. Il aura peut-être fait un écart ou pas d'ailleurs en faisant un peu peur aux piétons, mais il se trouve que c'est assez rigolo de voir, alors on voit pas tout et puis c'est compliqué de se rendre compte, mais de toucher un peu du doigt de comment une machine peut interpréter un environnement et finalement être beaucoup beaucoup plus vigilant que nous on l'est, a fortiori même quand on regarde pas notre téléphone ou qu'on écoute notre émission de radio préférée.
Ouais, c'est vrai que j'ai quand même l'impression que, tu sais, la voiture, ça va presque être un sujet. Allez, on pourrait s'imaginer dans peu de temps lancer un podcast sur la voiture connectée et il y aurait énormément de choses à dire. Si vous manquez, tiens, d'idées sur lesquelles vous pourriez vous lancer pour faire un podcast, la voiture connectée, à mon avis, c'est un bon terrain de jeu. Cédric, on va passer au bonus. Et pour ce bonus de l'épisode 40, est-ce que tu as quelque chose de prévu? Je me demande bien, vu nos discussions qu'on a eues.
Bah, c'est ça, puis tu viens de me le manger, donc c'est...
je me suis arrêté en cours de route, t'as vu?
C'est vrai. Je vous avais déjà parlé de la chaîne Science Étonnante qui est tenue par David Loapre, qui est chercheur en physique des particules, qui sort un certain nombre de vidéos de manière de plus en plus éclectique. La dernière étant sur un certain nombre de fossiles dans l'époque cambrienne, donc... c'était pas forcément sa meilleure, mais il y a vraiment des sujets un peu tout. Il y a des sujets beaucoup plus pointus comme je recherche pour pas dire de bêtises, mais sur la gravité quantique à boucle, qui est une théorie qui concurrence un peu la théorie des cordes pour ceux que ça intéresse un peu. Donc vraiment, il y a des sujets vachement vachement éclectiques. Et il a sorti un article et une vidéo, parce que chaque vidéo est assorti d'un article assez poussé. C'était fin octobre, qui s'appelait Réformons l'élection présidentielle. Et ça fait effectivement écho à ce qu'on se disait au début sur l'élection de Trump, où je soulignais quand même que Hillary Clinton a recueilli 200 000 voix d'avance sur Trump. Alors sur les plus de 100 millions d'Américains votants, c'est pas beaucoup, mais ça reste plus de voix. Donc dans un système logique, on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit élue. Et finalement, Science Étonnante prend le parti de regarder les différents systèmes de vote où on pourrait se dire, finalement, l'élection à la française à deux tours, uninominale à deux tours, est finalement la meilleure élection. Et on se rend compte bien que finalement, avec ce que les gens sont frustrés au-delà de du côté un peu tous pourri des politiques, qui parfois est un peu vrai, ou en tout cas, je ne tiens pas mes promesses, l'élection est parfois un peu compliquée de se dire, je choisis pour quelqu'un, mais j'exclus les autres forcément, alors qu'en fait, y a peut-être d'autres manières de se dire, mon premier choix, ce serait lui, mais si j'en avais un deuxième, ce serait tel autre, et d'avoir un regard un peu statistique sur c'est quoi les impacts de tel et tel mode de scrutin. Est-ce qu'il y a un mode de scrutin idéal qui permet de finalement mettre vraiment tout le monde d'accord et pas d'exclure quasiment la majorité d'un pays qui dit j'ai pas voté, mais j'ai quand même me le taper pendant 5 ans. C'est intéressant d'étudier un peu les différents systèmes et sans dévoiler la fin de la vidéo, le dernier système qu'il donne semble statistiquement très très malin. Alors il est pas en place, en tout cas pas en France ni aux États-Unis, mais ce serait vraiment malin de réfléchir à ça demain sur une révolution du mode d'élection en général et a fortiori l'élection présidentielle. Et donc vraiment, regardez-la jusqu'au bout, c'est vraiment intéressant pour penser différemment.
Ouais, c'est rigolo d'ailleurs de se dire, finalement, on sait pas trop comment, enfin si, on sait, les historiens le savent, moi pas, mais comment ont été conçus ces systèmes de vote, parce que finalement, j'ai pas l'impression qu'il y a eu ce regard de la science et de la statistique et de l'analyse comme ça, statistique dépassionnée, qui ait permis de construire les systèmes qui sont utilisés aujourd'hui, et ce serait peut-être intéressant, effectivement, de se poser la question, de les refondre un peu.
Ce qui est surtout malin, en fait, c'est de penser penser à comment ne pas pervertir un système. C'est-à-dire que dans toute élection, il y a toujours moyen de se dire je vote soit pour exclure quelqu'un, soit parce que, enfin voilà, type ce qui s'est vu aux primaires dans un sens ou dans l'autre, d'avoir des gens qui finalement font un choix non pas par conviction, mais soit par défaut, par dépit. Et finalement, dans les différents systèmes, on a toujours des cas où on peut pervertir et venir truquer une élection finalement. Et notamment dans un mode d'élection un tout petit peu plus complexe au moment du vote, mais pas si complexe que ça finalement, on peut avoir une élection qui est assez peu truquable et qui satisfait le plus grand nombre. Donc c'est vraiment intéressant de regarder cette vidéo, surtout dans cette période un peu tumultueuse d'élections dans le monde.
Tout à fait. C'est des éléments à suivre et encore une fois David Louapre, gros coup de cœur. Et juste pour, tu parlais de la gravitation quantique à boucle, qui est un sujet sur lequel il a travaillé lui hein, de son côté.
Oui, c'est le sujet de thèse.
C'est son sujet de thèse et il en a fait du coup un épisode pour ceux qui veulent encore plus en savoir, enfin entendre encore plus David Louapre sur le sujet. Vous pouvez aller écouter l'épisode 275 de Podcast Science, qui est l'avant-dernier, sauf erreur, disponible à ce jour, ou en tout cas c'est un des derniers, où il reparle de la gravitation quantique à boucle et il en parle de manière très complémentaire à la vidéo. Donc une occasion peut-être d'aller découvrir, si c'était pas déjà fait, Podcast Science. Cédric, moi j'ai un bonus, j'ai découvert l'eau chaude, parce que c'est quand même important de repartir sur les bonnes bases. Non, vous le savez, je suis sur iOS et j'ai longtemps utilisé uniquement les systèmes de synchro d'iCloud pour la photo. Et à plusieurs reprises, j'ai voulu tester Google Photos et pour plein de raisons, ça me satisfaisait pas. Une des raisons principales, c'était que l'upload de photos était catastrophiquement long. Et reprenait le fait de retélécharger toutes mes photos en HD pour les réuploader. Je trouvais le système complètement stupide et ça prenait vraiment des plombes. Et puis, je me suis décidé quand même un jour à retrousser mes manches et pendant plusieurs jours à laisser mon smartphone activé sur Google Photos pour vraiment faire tout l'upload. Et je le regrette pas parce que c'est carrément complémentaire avec le système que j'ai sur iOS. Le système que j'ai sur iCloud, c'est qu'il me stocke toutes mes photos en haute définition sur le web et il retélécharge des versions optimisées pour mes appareils. Donc comme ça, ça prend pas trop de place et j'ai accès à toute ma bibliothèque photo en permanence. Et en plus, j'ai mes HD qui sont sauvegardés quelque part à Cupertino. Et à côté de ça, Google Photos a quand même des énormes avantages au niveau de la recherche. Et pour moi, en fait, Google Photos, c'est devenu un peu mon Evernote de la photo. Vous savez, l'amour que j'ai pour ces services de prise de notes qui collectent plein de données que vous voulez y mettre. Et ben Google Photos, c'est ça. Il stocke énormément de choses et il fait des recommandations de montage, d'association de photos, de films qui sont hyper bien faites. Et j'avoue, malgré le fait que ça a été ensemble dans iOS 10, que les fonctions équivalentes chez Apple sont pas aussi bonnes. Et dans Google Photos, on a quand même un résultat qui est carrément bluffant. Et plein de petits bugs ont été corrigés. Moi, j'avais toujours deux instances de redécouvrer cette journée qui remontait en permanence. Ça a été corrigé. Enfin, c'est devenu une solution vraiment hyper sérieuse et très bien finalisée. Donc, c'est mon gros coup de cœur. D'autant plus que c'est gratuit et même s'il vous stocke pas vos photos en vraie complète HD, bah vous avez quand même une super bonne qualité pour la sauvegarde. Et moi, je ne supprime rien sur Google Photos. Et puis deux petits liens que vous retrouverez dans les notes de l'émission. Deep Blue, qui est une fonctionnalité de traitement de la photo qui est hyper bien foutue et sur laquelle il n'y a pas d'équivalent aussi simple dans les autres applications de gestion de photos qui vous en gros sature le ciel mais de manière hyper élégante. Donc un point de détail, mais si vous faites plein de photos de paysages, vous allez sans doute pouvoir redécouvrir ces photos-là avec Google Photos, avec cette fonctionnalité-là. Et puis une application qu'ils ont sortie il n'y a pas très longtemps, qui est pour moi l'exemple parfait du truc bien pensé et simple, c'est Photoscan. Donc c'est une application indépendante de Google Photos, mais qui va se brancher sur Google Photos et qui va vous permettre de numériser vos photos en argentique, vos photos papier que vous aviez dans vos vieux albums pour les numériser sur Google Photos. Il y a déjà des applications qu'il faisait, mais qui avait des défauts. Parfois, elles étaient payantes, tout simplement. Et d'autres fois, le scan n'était pas aussi bien pensé qu'il l'est là. Là, avec Google, comme dans plein d'applications Google, le truc est super simple. Vous prenez juste quatre endroits qui correspondent aux quatre coins de votre photo et vous avez quelque chose de très haute qualité qui est numérisé sur Google Photos. Donc, de quoi donner une seconde vie à vos albums de famille. Allez jeter un coup d'œil. Photoscan par Google Photos, c'est évidemment gratuit. Et puis je voudrais terminer mon tour de bonus avec les nouvelles leçons dans Swift Playgrounds. J'ai parlé de Swift Playgrounds dans la voix de Guillaume, qui est cette application qui est sur iPad et qui est pour moi un élément de pédagogie sur le développement, évidemment sur le développement Swift, mais sur le développement en général, complètement incroyable. Je recommande tous les jeunes, tous les enfants qui voudraient découvrir la programmation et qui ont la possibilité de comprendre l'anglais, de se jeter là-dessus sur leur iPad. C'est vraiment une application formidable pour démocratiser le développement. C'est une innovation insoupçonnée d'Apple qui est accessible gratuitement. Allez jeter un coup d'œil, d'autant plus qu'il y a une troisième série de leçons qui est disponible pour aller plus loin. Si jamais vous les aviez terminées, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. Une remarque, Cédric, peut-être sur Google Photos ou pas du tout, non?
Tu l'aimes bien, ça. Hein, moi, je kiffe grave sa mère. Et en l'occurrence, la killer feature que je trouve au-delà de la synchro, qui est juste magique, et effectivement, une fois que t'as fait le gros de tes photos, tu perds vraiment aucune photo. Enfin, tu changes de téléphone, tu les retrouves toutes. Enfin, il y a vraiment un côté assez chouette et finalement très transparent. Ils sont vraiment beaucoup améliorés depuis Picasa et depuis les précédentes applications où c'était quand même des applis qui faisaient presque le même service, mais avec un côté moins magique et plus expert technique à régler les bons paramètres pour que ça se passe bien. Et là, typiquement, moi, le truc que je trouve génial, c'est le partage d'albums, les albums partagés, qui marchent avec tout le monde, même quand t'es pas forcément sur Google. Et ma mère sait l'utiliser. Enfin, ça montre que ça marche, quoi. C'est, voilà.
Excellent, Google Photos à démocratiser autour de vous. Cédric, merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cet épisode Tech Café. C'est quand même sympa de se dire qu'on a fait un épisode à chiffre rond 40, tous les trois qui étions les vieux de la vieille parmi les ancêtres de Tablette Café.
Donc
ça fait très plaisir. Vous pouvez retrouver donc Pierre-Olivier sur son streetcast, comme il disait, dont le titre est le Blabla Pod. Donc encouragez-le, tapez-le, fouettez-le si sur les réseaux sociaux pour qu'il en diffuse plus, même si la qualité est pas au top, il va de son, j'entends, la qualité sonore n'est pas au top, il va forcément l'améliorer avec le temps. Et puis vous le savez, c'est pas forcément la vocation de ce type de média, qui est plus de diffuser une idée, une notion un peu rapide plutôt que quelque chose de très produit. Cédric, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut t'interpeller sur un des sujets qu'on a traité?
Aux endroits habituels, le plus réactif sera pour moi Twitter @cedcib, CEDSIB, ou cherchez Cédric Tamboise sur Twitter, vous devriez me trouver, ou sur mon blog dont le nom s'appelle Blig, B-L-I-G, sur lequel je suis un peu plus actif en ce moment.
Je vais y retourner alors. merci beaucoup Cédric. Pour ma part, c'est donc Guillaume Vendée, @GuillaumeVendée sur Twitter. Vous me retrouvez aussi sur Facebook, sur une page publique que j'essaye d'animer régulièrement et pour laquelle je tiens le rythme pour l'instant. C'est Guillaume Vendée @talkshows en podcast. Attention, c'est beaucoup de promesses, mais je ne parle pas que de podcast dessus. Donc allez me suivre là-dessus. Et puis vous me retrouvez également dans mon streetcast, comme donc Pierre-Olivier, quelque chose de peut-être un peu plus intimiste, La Voix de Guillaume, où je parle de tout et de rien sur des formats relativement courts. Cédric, une petite recommandation, c'est que à partir du moment où tu vas entendre le générique, je t'invite à couper ton micro, comme ça l'enregistrement de l'épisode va se terminer tout seul et je n'aurai pas de montage à faire grâce à une nouvelle version de Zencaster. Donc merci beaucoup Cédric, merci à vous qui nous suivez. À tout bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à tous.
Bye.